Salut à tous, c'est Café Brioche, bienvenue pour un nouvel épisode. Moi c'est Reda, on est toujours en compagnie de Lucas.
Salut les gars.
Et aujourd'hui, nouvel épisode, un café avec, on est en compagnie d'une nouvelle invitée. Donc d'ailleurs, Fanny, t'es la première femme à venir ici.
Oh, super.
Et bah, je te laisse te présenter.
Alors salut tout le monde, moi c'est Fanny. Donc je suis là pour parler du monde des enchères. Et je travaille actuellement dans une des plus grosses maisons de vente aux enchères au monde, ici à Paris. Et donc, je suis ravie de partager mes histoires avec vous.
Merci beaucoup, merci d'être venu, surtout c'est super sympa de ta part. Du coup, nous, on voulait, pour expliquer aux personnes, on voulait savoir comment ça se passait une vente aux enchères, parce que voilà, on a les émissions comme Affaires conclues, que les gens voient, on a un peu ce mythe, voilà, une petite chaise qui vaut 3 euros en brocante, qui vaut 100 000 euros certaines fois, bon, j'abuse bien sûr, mais toi, c'est quoi réellement ton métier au sein de cette maison aux enchères? De quoi tu t'occupes exactement? Ça pourrait être intéressant à savoir.
Ok. Pour commencer, peut-être faire quelque chose de plutôt chronologique pour que tout le monde suive un peu de quoi il s'agit. Donc, le but, c'est de mettre un objet en vente. Donc, nous, aujourd'hui, là où je travaille, on vend essentiellement du mobilier. Donc, tout ce qui peut être déplacé par l'humain, en fait. Mais il faut savoir que maintenant, on peut vendre des NFT et plein de choses incorporelles. Donc, en gros, une personne vient nous amener un lot. Et nous, notre but, c'est de donner un prix à cet objet. Pour donner un prix à cet objet, en général, on a accès à pas mal de bases de données qui vont, au-delà de l'expertise humaine, pouvoir nous dire combien fait aujourd'hui un objet sur le marché. Donc, c'est différentes plateformes, dont la plateforme d'Interenchères, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui répertorie toutes les maisons de vente en France et qui a créé une base de données pour toutes les maisons de vente. Okay. Donc, ça, c'est la première chose. Et après, il y a beaucoup d'autres sites internet internationaux qui répertorient justement... les objets, les tableaux, les commodes, tout type d'objets. Donc, en général, quand on reçoit un objet, on va donner une pré-évaluation au client tout en lui disant qu'il va falloir qu'on fasse plus de recherches. Donc, nous, le cœur du métier, c'est ça, c'est de faire des recherches pour donner le meilleur prix à l'objet et ensuite promouvoir cet objet. Donc, pour pouvoir promouvoir cet objet, une fois qu'on a trouvé son estimation, il va être publié donc sur différents sites internet pour que il soit vu par le maximum de gens possible.
Ok.
Pour que parce qu'il faut en tête c'est que l'objet puisse faire le meilleur prix. Parce que et le vendeur et nous à la maison de vente serons gagnants en fait parce que nous à la maison de vente on prend une commission à l'acheteur. Et au vendeur. Ok, on est un intermédiaire, on se paye à la fois sur le vendeur et à la fois sur l'acheteur. Ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas forcément. Quand je discute avec les gens, ils ne savent pas forcément que ça se passe comme ça. C'est vrai que nous, on va prendre et du côté du vendeur et du côté de l'acheteur. Donc, on a tout intérêt à ce que le lot fasse le meilleur prix possible, nous, pour notre rémunération et pour la rémunération du vendeur. Oui. Donc, on va faire en sorte que le lot soit le plus diffusé de la manière la plus large possible. Donc, il y a plein de sites qui répertorient les ventes aux enchères. Donc, ça, c'est la première chose. On va publier le lot et faire en sorte qu'il soit vu par le plus grand nombre. On va envoyer des choses comme des newsletters. Le marketing va aussi nous aider à faire des campagnes marketing. Donc, ça, c'est le cas... là où je travaille, c'est assez développé. Et surtout, ce qui est développé, c'est qu'on sait exactement quel type d'acheteur va acheter quoi. On a des bases de données assez grandes qui nous permettent de savoir qui a acheté quoi ces dernières années, sur quel lot. Donc, en gros, on va relancer ces personnes-là pour leur dire, bon, bah coucou, si vous ne l'avez pas vu, voilà ce que nous, on a en vente et voilà ce qui pourrait vous intéresser.
Ok.
Donc, pour que le lot soit le plus visible possible, on fait aussi des photos, donc haute définition du lot. On va prendre le lot sous toutes ses coutures, la signature, les défauts aussi. On va extrêmement bien décrire le lot pour que, parce qu'en fait, aujourd'hui, la plupart des gens ne voient pas ce qu'ils achètent. Ça aussi, il y a eu un déplacement depuis le Covid. Nous, on fait des expositions avant les ventes. Et maintenant, en fait, les gens ne viennent plus en exposition. Donc, nous, on se doit, en tant que professionnels, de décrire le mieux possible ce qu'on vend. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire après? Je ne sais pas si vous avez
Et
des questions
ouais,
là-dessus.
j'avais une question là-dessus. Est-ce que, parce qu'on parle souvent des vendeurs qui vont vers vous pour proposer leurs produits, mais est-ce que vous allez aussi à la rencontre de certains collectionneurs qui ont pas forcément formulé une offre, mais qui ont peut-être des produits ou des biens de valeur qu'ils voudraient
Oui.
potentiellement mettre en vente? Donc vous êtes aussi dans la négociation là-dessus ou...
En fait, on a une vision assez globale et on sait aujourd'hui, surtout par exemple pour les grands tableaux d'art moderne, impressionnistes, etc., on sait quel collectionneur a quoi.
OK.
Donc c'est vrai que j'allais dire on tient les pieds chauds, si je puis permettre cette expression aux vendeurs, enfin aux clients qu'on connaît et où on sait ce qu'ils ont. Mais après, de manière générale, nous, on ne va pas démarcher quelqu'un qui n'a pas envie de vendre.
OK.
De manière
Ouais.
générale. On va faire en sorte de l'inviter à nos expositions, de le tenir au courant de nos ventes, etc. Mais on va pas forcément lui dire, bon, est-ce que tu peux me donner ça en vente, etc. En général, ces grosses collections, elles arrivent justement en cas de succession.
Ok.
Et c'est comme ça qu'on a ces grosses successions. Et sinon, il y a beaucoup de spontanéité aussi. C'est les gens qui sont au courant de la renommée de la maison, qui vont nous appeler, nous dire, bon, bah
Oui,
voilà, moi.
forcément.
Ok, c'est
Voilà.
bon.
Okay.
Moi, j'aimerais passer à l'étape après. Une fois que vous trouvez, par exemple, un client, un objet ou quelqu'un qui vous appelle, est-ce que pour déplacer, j'imagine bien, un tableau, des assiettes, ou n'importe quoi, même des objets de luxe, quelquefois, est-ce que vous devez prendre des précautions énormes? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que si vous cassez, ça t'est déjà arrivé de casser un objet qui avait une
Oui.
valeur forte, est-ce que vous devez tout repayer au vendeur, sa
Oui.
valeur basse, sa
Oui,
fourchette haute? Comment ça se
alors
passe?
déjà, on a des. Nous, en tant que professionnels du marché de l'art, on sait comment manipuler un objet quand on l'a en main, par exemple. Moi, je suis au département des livres et manuscrits, donc je me dois de savoir manipuler un incunable, un livre rare, voilà. Donc, ça, déjà, en tant que professionnel, on se doit de savoir manipuler un objet. Et ensuite, on fait appel à des transporteurs, par exemple, pour transporter le lot de chez notre client vendeur vers notre maison de vente. Il y a des transporteurs qui sont spécialisés vraiment dans les œuvres d'art. C'est souvent les mêmes que dans les musées, etc. Il y en a quelques-uns sur le marché qui, voilà, qui sont vraiment pros.
Je pense que les vendeurs sont en panique un peu, ils doivent stresser parce que
Oui.
forcément ils partagent avec vous des produits qui ont peut-être des milliers d'euros, donc qui valent des
Voilà.
milliers. Donc, ouais.
Après, en général, ils sont plutôt rassurés parce qu'ils voient les transporteurs travailler, ils savent comment, enfin, ils voient du coup comment ils travaillent, les précautions qu'ils prennent. Donc, en général, ils sont quand même rassurés parce qu'on travaille avec des professionnels qui savent faire. Et pour répondre à ta question précédente, oui, on est responsable et on doit payer si on casse. On devra rembourser le client si on casse, oui.
Ok, et ça vous est
Okay.
déjà arrivé Après, je sais pas si c'est
Moi, ça m'est
industriel.
arrivé, mais
Faut pas le
ici, ça m'est arrivé dans mon précédent job. Et bon, c'était une petite. Enfin, on a pu faire restaurer le lot et c'était pas quelque chose de trop grave.
dire. Ok,
Mais on a dû compenser le client, ouais.
ok.
Ouais,
Ok, donc.
on a dû compenser. C'est pour ça qu'on prend vraiment. La première chose qu'on apprend dans une maison de vente, c'est vraiment à manipuler les objets. C'est vraiment
D'accord.
quelque chose qu'on apprend tout de suite. Mon
Ok.
premier stage, on m'a montré comment manipuler les objets. C'est
Ok.
vraiment quelque chose à apprendre assez
Je
vite.
sais que, bon, en off, on a aussi pu parler de ce que tu faisais. Je sais que tu es spécialisé dans les livres anciens et dans les manuscrits. Donc,
Oui.
On va dire que, par exemple, je prends un exemple fictif, je veux me séparer d'un manuscrit datant du Moyen-Âge. Comment vous arrivez réellement à fixer le prix de ce manuscrit-là? Qu'est-ce que vous prenez en compte, par exemple? Est-ce qu'il y a des critères déjà définis ou ça dépend de l'époque? Ou je sais pas,
En fait,
est-ce que déjà aussi à travers les photos, ça suffit de pouvoir. Enfin,
nous, en général, on prend un premier contact avec le client par photo. Donc, il nous envoie des photos de l'objet qu'il souhaite vendre. Et donc, nous, on lui établit une première description, une première estimation. Mais on ne s'engage jamais sur la description qu'on donne par photo. Parce qu'en fait, il faut qu'on voit le lot vraiment de manière physique. Pour être sûr déjà de ce qu'on a en face, parce qu'on peut avoir affaire à un fac-similé, donc un faux, en photo on ne l'aura pas forcément vu, etc. Donc vraiment, l'expertise elle va commencer quand on voit le lot et qu'on l'a en face de nous. Et donc, pour fixer un prix, déjà, l'important c'est l'état du lot. Parce que s'il est en plus ou moins bon état, ça va complètement changer l'estimation. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, comme je te disais, on a des bases de données qui répertorient à peu près... franchement, tu peux trouver des choses qui sont passées en vente il y a 40 ans. On a vraiment des super bases de données. Bon, il y a l'œil de l'expert aussi qui joue. Donc nous, on va rechercher ça. Et par rapport à l'état de l'objet qu'on a, on va pouvoir fixer un prix. Voilà.
Ok.
Ok.
Intéressant.
Moi, j'avais la partie, donc plutôt maintenant vente aux enchères. Une fois que je prends l'exemple du livre qui est mis aux enchères, est-ce que tu as déjà eu des fois des surprises de livres que tu as estimé, je ne sais pas, une certaine valeur, comme je dis n'importe quoi, 10 000 euros peut-être, et qui sont vendus 10 fois le prix, 15 fois le prix
Alors, là, on a eu une surprise lors de notre dernière vente. Un livre qu'on avait estimé, si je ne dis pas, dans les 150 000 euros.
Okay.
C'était un manuscrit qui a fait 800 000 euros. Donc là, on a eu vraiment une grande surprise là-dessus parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce prix-là. Et après, la magie de la vente aux enchères, c'est que c'est un jeu, en fait. Au moment des enchères, c'est un jeu, c'est comme quelqu'un qui jouerait au poker, par exemple, ou qui... Vraiment, ça s'apparente à ça. C'est un joueur de casino, presque. Et du coup, quand il y a deux personnes qui sont l'une contre l'autre et qui montent sur un lot, parfois, en fait, elles veulent tellement l'objet qu'elles ne regardent plus à la dépense et c'est à celui qui gagnera le lot.
C'est à l'ego, quoi.
Exactement.
Ouais. Ok, ok.
Oui, voilà, c'est ça, forcément.
Et quand ça joue. Big player.
Ok, d'accord.
Ok. Donc,
voilà, c'est. Parfois,
j'avais juste une petite question. Du coup, je sais que quand ils achètent l'objet, donc ils ont des charges en plus, je crois, ou 15 ou 20% des fois, qu'ils doivent payer en plus donc, pour la vente. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous faites une vente et que l'acheteur, en fait, il n'avait pas assez d'argent pour acheter cet objet? Et comment ça se passe? Un acheteur, par exemple, insolvable.
Insolvable, oui, ça arrive.
Ok.
En gros, ça s'appelle une folle enchère.
Ok.
Il y a là, c'est un nom juridique et le problème, c'est que concrètement, on peut pas grand chose contre cette personne. On va le mettre en demeure parce que nous, on a des process, donc on va le mettre plusieurs fois en demeure de payer. Mais malheureusement, concrètement, on peut vraiment rien contre lui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre l'objet en vente dans une vente, dans une autre vente.
Okay.
Mais concrètement, on prend des garanties bancaires, évidemment. Hein. Quand l'objet dépasse une certaine estimation, on va prendre des garanties bancaires pour éviter ce genre de problème. Mais ça va pas se faire, tu vois, tout de suite. Donc, la plupart du temps, malheureusement... C'est un peu le problème, on se retrouve un peu face à un vide juridique. Et ce qui est un peu embêtant aussi, c'est que les acheteurs n'aiment pas revoir un lot qu'ils ont cru être vendu sur le marché quelques mois plus tard. Ça grille pas le lot, mais c'est pas terrible pour l'objet. Parce que du coup, les gens vont dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» Ils se sont trompés, ils ont fait une mauvaise estimation. Donc c'est pas terrible. On essaye de prendre des garanties, on essaye de faire en sorte que les gens payent, mais malheureusement, je vais pas vous cacher que ça arrive.
Ouais, ça perd un peu de sa valeur. Mais du coup, l'acheteur qui est insolvable, il a pas d'amende ou il a rien.
Non, malheureusement, on le met en demeure. En fait, il est ce qu'on appelle. Il peut plus enchérir sur nos ventes.
D'accord, ok. Il est banni.
Il est banni, mais le truc c'est que nous, on l'a banni de chez nous, mais ça veut pas dire qu'il peut enchérir dans une autre maison. Ouais. Et souvent, ils sont malins, ils prennent des autres. Ils prennent une autre identité.
Donc ils forcent, ils essayent encore de trouver une solution. Ouais. Et moi, je voulais savoir, comment on s'inscrit justement pour participer à une vente aux enchères? Comment tout se s'articule est-ce qu'il faut prouver qu'on est, voilà, comme
ouais,
on disait,
on a de
est-ce
l'argent,
qu'on faut prouver qu'on est solvable ou il faut avoir un certain statut social? Parce que nous, c'est un peu étranger pour nous, ce monde-là. Donc on essaye juste de d'exposer ça à nos auditeurs au maximum.
Ouais, quoi. C'est le but aussi, je pense que la vente aux enchères est par essence publique. Donc, ce qui signifie que tout le monde y a accès. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est vrai qu'il y a souvent un peu des rouages qu'il faut connaître. Ça, c'est vrai. Mais une fois qu'on a compris les règles, c'est très facile. Vraiment, c'est très facile. Donc, on s'inscrit en ligne, simplement. On sait qu'on a un objet dans une vente qui nous intéresse. On va s'inscrire sur le site de la maison de vente en ligne. Donc, il y a plusieurs manières d'enchérir. Donc, en ligne, directement, on suit la vente directement, en direct. Et dès qu'il y a l'objet qui nous intéresse, on enchérit en ligne. Comme sur eBay ou n'importe quel site de vente, j'allais dire.
Un site de revente. Ouais.
Donc, ça, c'est la première possibilité. À l'inscription, on va te demander une pièce d'identité.
Ok.
On va te demander de rentrer tes codes de carte bleue aussi.
Ok.
Et ensuite, tu peux enchérir aussi en demandant à la maison de vente qui t'appelle pendant la vente. Donc ça, on appelle ça des enchères téléphoniques. Et la troisième solution, c'est de mettre un ordre d'achat ferme. C'est-à-dire que, par exemple, tu as un lot qui est estimé 2000 à 3000 euros. Donc toi, tu dis, moi, j'envoie un mail à la maison de vente, je veux ce lot, mais je n'irai pas au-delà de 2000 euros. Donc en fait, tu donnes un ordre fixe, un montant fixe au-delà duquel tu n'iras pas.
Ok.
Mais par exemple, parce que c'est un peu con, ça, je pense que c'est pas très facile à comprendre. En gros, le commissaire-priseur, en général, il va commencer, pour un lot estimé entre 2000 et 3000 euros, il va commencer à 1500 euros.
Il va commencer au prix plancher du vendeur, non? D'après ce que j'ai compris, c'est...
Il commence en dessous pour pouvoir faire monter les enchères. Mais si ton lot, par exemple, il n'a pas de prix de réserve, c'est ça que je vais vous en parler après, et que le commissaire-priseur commence à 1500 euros et qu'il n'y a personne, toi, tu as mis un ordre à 2000, tu auras ton lot à 1500.
Okay.
Parce qu'en gros, nous, quand on vend un lot, on demande à notre vendeur, est-ce que vous voulez un prix de réserve, c'est-à-dire un prix au-dessus duquel on ne vendra pas votre lot. Donc, en général, ce prix de réserve est fixé à l'estimation basse. Donc, pour reprendre mon exemple de 2000-3000, c'est fixé à 2000 euros.
Ok.
Voilà.
Et après, ça, c'est au choix. Donc, si le vendeur accepte de le descendre en dessous de son plancher à 1500, j'imagine. Ok, ça marche. Ok.
Et tu penses que le prix d'une même œuvre peut évoluer selon la période de l'année, par exemple? Est-ce qu'il y a des saisons où il y a des périodes de l'année qui attirent plus de clients, forcément? Parce que vous êtes un peu comme l'autorité de l'art, vous décidez un peu des prix et le marketing aussi compte, la communication sur vos réseaux sociaux aussi, de la mise en avant des ventes aux enchères. Donc, est-ce que il y a une saison qui est forcément prisée par les vendeurs?
Je pense que pour certaines ventes, par exemple pour les ventes de bijoux, Noël, c'est une super, enfin le mois de décembre, c'est une très bonne période. Beaucoup de maisons de vente font des ventes d'ailleurs de bijoux à cette période-là. Après, tu vas avoir par exemple l'art d'Asie. Il y a une période pour vendre l'art asiatique parce que il y a l'Asian Week à Paris. Je sais plus quand c'est, en mars, je crois. Donc là, ben pareil, parce que tu sais que tous les collections sont en prix, donc c'est le moment de vendre. Pareil pour le dessin, parce qu'il y a un salon du dessin. Par exemple, pour l'art contemporain, c'est la FIAC, le rendez-vous. Donc voilà, c'est oui, il y a des périodes de la vie.
Ok, ouais. Super intéressant. Ouais. J'avais du coup moi la question du salaire, hein, je la pose tout le temps, parce que sur Café Brioche c'est pas tabou. Est-ce que du coup travailler dans une maison aux enchères, est-ce que voilà, combien on gagne quand on travaille dans une maison aux enchères, et voilà, si tu peux nous donner une fourchette, hein, t'es pas obligé de nous donner
par rapport aussi à ta position,
par rapport à ta position, à ce que tu fais, est-ce que ça marche aussi sur des commissions, voilà.
Alors, donc oui, ça peut marcher sur des commissions parce qu'on peut être ce qui s'appelle apporteur d'affaires. Donc, apporter un lot par un intermédiaire qu'on connaît à la maison de vente et prendre un pourcentage sur cette vente. Donc, ça, c'est clairement quelque chose qui peut arriver. Et après, en fixe, non, je vais pas vous faire rêver. C'est pas.
D'accord.
C'est bon d'être extraordinaire. Voilà, c'est un métier de passion. C'est vraiment un métier de passion. Même quand on est commissaire-priseur, on n'a pas sa propre maison de vente. Voilà, c'est pas hyper.
Donc ouais, faut que ça soit vraiment une vocation, quelque chose qui est ancré en toi. Et... Ouais.
D'accord. Okay. Même ça, il faut être passionné par ce qu'on fait. Et... On compte pas ses heures et on est voilà, faut être dispo.
Mais justement, pour revenir à ton parcours, pendant tes études, est-ce que tu as étudié l'histoire de l'art, par exemple, avant, ou tu étais dans une autre voie et tu as décidé de bifurquer, on va dire?
Non, j'ai toujours été dans ce monde-là. Donc moi, j'ai fait une licence de droit et une licence d'histoire de l'art,
okay.
qui sont les prérequis pour passer l'examen de commissaire-priseur. Donc examen que j'ai passé deux fois, que je n'ai pas eu... et que j'aimerais passer aujourd'hui en interne, en fait, au bout de 7 ans, comme pas mal de professions dans le monde juridique, passer au bout de 7 ans un autre examen. Donc là, j'en suis à bientôt 5 ans, donc ça passe finalement assez vite. Et donc, je passerai au bout de ces 7 ans un autre examen pour être commissaire-priseur.
Ok,
top.
Voilà.
Moi, j'avais une dernière question, c'est par rapport à l'émission Affaires conclues, comme il y a pas mal de gens qui la connaissent, et c'est ça qui a un peu fait grandir, enfin, un peu montrer au grand public le monde des enchères, c'est un peu ludique, quoi. Qu'est-ce que t'en penses de cette émission? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que, je pense, c'est beaucoup de, voilà, beaucoup d'acting? Est-ce que, voilà,
ouais.
Dis-nous ce que t'en penses.
Alors, moi, je trouve que... c'est bien pour le grand public, ça fait connaître ce métier-là, ça permet aux gens aussi de savoir que s'ils ont quelque chose, un trésor dans leur grenier, ils peuvent faire appel à une maison de vente et ils sauront qu'ils seront bien aiguillés, qu'on pourra leur donner un prix. Après, il y a beaucoup d'acting, comme tu dis, parce que... les commissaires-priseurs, tu les vois directement, ils donnent un prix à leurs clients. Ils sont dans le monde réel, ça se passe pas comme ça. La plupart du temps, on ne peut pas donner une estimation aussi, à part pour les objets du tout venant. Hein, voilà. Mais on ne peut pas donner un prix comme ça en étant sûr que ça fera ce prix-là. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a des choses qui sont un peu surjouées.
Ok.
Mais de manière générale, je pense que c'est plutôt une bonne émission.
Ok, ok.
Voilà.
Juste le marteau pour taper une fois que l'affaire est conclue, ça c'est ce qui manque. Mais bon, je pense pas qu'ils aient le droit de le faire en fait.
Non, parce que je pense que c'est peut-être pas dans le cadre. Ben non, c'est pas dans le cadre d'une vacation, d'une vraie vente aux enchères, donc peut-être qu'ils ont pas le droit.
Ah oui, c'est peut-être pour ça, ouais, c'est les codes qu'ils ont pas le droit d'utiliser. Et moi... Et justement, juste pour permettre aux internautes de faire un petit voyage dans l'histoire, est-ce que tu peux nous partager la dernière pièce que t'as réceptionnée au bureau, par exemple, que ce soit aujourd'hui ou il y a quelques jours?
J'ai réceptionné d'un peu sympa pour... Ah oui, j'ai eu un truc assez rigolo. J'ai eu une boîte à jeux en marqueterie. Donc, c'est une petite boîte comme ça, rectangulaire, ouais. Avec des jetons à l'intérieur, qui a appartenu à Marcel Proust. Donc, okay. C'est vrai qu'il y a pas mal d'affect là-dessus. C'est un petit objet de curiosité, parce que ça, ça vaut pas grand chose, mais pour les amateurs de Proust, voilà, c'est plutôt rigolo et c'est quelque chose qu'on vend dans la vente, la prochaine vente de livres. Donc il faut savoir qu'on n'a pas que des livres aussi, du coup. On a aussi des petits objets de curiosité comme ça. Donc ça, je trouve ça assez rigolo.
Ouais, voilà. C'est top. Et il y a plein d'histoires, je pense, à travers cette boîte. Donc, voilà, pour les passionnés, c'est parfait, je pense.
Une valeur sentimentale.
Ouais, ouais. Exactement, c'est ça. Il n'y a pas de prix.
Ouais. Bah, en tout cas, merci Fanny. Moi, j'ai posé voilà, toutes mes questions. Lucas, c'est ce que tu as... T'avais d'autres questions ?
Non, c'est bon. J'ai pu avoir une bonne vision maintenant du monde des enchères, donc c'est top.
Ouais, c'est ça.
Merci moins, d'ailleurs pour ton temps, hein, c'était super cool.
N'hésitez pas à enchères.
Ouais, c'est...
Ouais, bah, on va essayer.
Venir,
hein,
comme
c'est assez facile maintenant de s'inscrire, et juste à partager la pièce d'identité et tout, donc pourquoi pas.
Ouais.
Pourquoi pas.
En tout cas, ça nous a permis aussi de voir un peu voilà, le monde des enchères d'un œil un peu plus pro, voir ce qui se passait derrière, et merci d'être venu, merci d'avoir pris le temps de tout nous expliquer. On espère que voilà, ça aura plu à nos auditeurs, que vous avez appris plein de choses sur les ventes aux enchères, et on se retrouve dans 2 semaines du coup, le dimanche à 11h pour un nouvel épisode, et ciao tout le monde,
ciao tout le monde, à la prochaine.